Chapitre 4, 13e partie, dimanche 28 octobre. L'île des Jades, sur le lac des Lotus, est un rocher, artificiel peut-être malgré ses proportions de montagne, qui se dresse au milieu des bois de la ville jaune. À ses parois s'accrochent de vieux arbres, de vieux temples qui vont s'étageant vers le ciel. Et couronnant cet ensemble, une sorte de tour s'élance, un donjon d'une taille colossale, d'un dessin baroque et mystérieux. On le voit de partout, ce donjon. Il domine tout Pékin de sa silhouette, de sa chinoiserie vraiment excessive, et il contient là-haut une effroyable idole aérienne dont le geste menaçant et le rictus de mort planent sur la ville. Une idole que nos soldats ont appelée le grand diable de Chine. Et je monte ce matin faire visite à ce grand diable. Un arceau de marbre blanc, jeté sur les roseaux et les lotus, donne accès dans l'île des Jades. Et les deux bouts de ce pont, il va sans dire, sont gardés par des monstres de marbre, ricanant et louchant d'une façon féroce vers quiconque aurait l'audace de passer. Les rives de l'île s'élèvent à pic, sous les branches des cèdres, et il faut tout de suite commencer à grimper, par des escaliers ou des chemins taillés dans le roc. On trouve alors, échelonnés parmi les arbres sévères, des séries de terrasses de marbre avec leur brûle parfum de bronze et des pagodes sombres au fond desquelles brillent dans l'obscurité d'énormes idoles dorées. Cette île des Jades, position stratégique importante puisqu'elle domine tous les alentours, vient d'être occupée militairement par une compagnie de notre infanterie de marine. Ils n'ont point là d'autres gîtes que les pagodes, nos soldats, et point d'autres lits de camp que les tables sacrées. Alors, pour pouvoir se faire un peu de place, pour pouvoir s'étendre la nuit sur ces belles tables rouges, ils ont doucement mis à la porte la peuplade des petits dieux secondaires qui les encombraient depuis quelques siècles, laissant seulement sur leur trône les grandes idoles solennelles. Donc, les voici dehors par centaines, par milliers, alignés comme des jouets sur les terrasses blanches, les pauvres petits dieux encore étincelants, sur qui tombent à présent le soleil et la poussière. Et dans l'intérieur des temples, autour des grandes idoles que l'on a respectées, avec quels aspects de rudesse les fusils de nos hommes s'étalent et leurs couvertures grises et leurs hardes suspendues. Et quelles lourdes senteurs de tanières ils ont déjà apportées, nos braves soldats, dans ces sanctuaires fermés, sous ces plafonds de laque habitués aux parfums du santal et des baguettes d'encens. À travers les ramures torturées des vieux cèdres, l'horizon, qui peu à peu se déploie, est un horizon de verdure, aux teintes roussies par l'automne. C'est un bois infini, au milieu duquel apparaissent seulement, çà et là, comme noyées, des toitures de faïence jaune. Et ce bois, c'est Pékin, Pékin que l'on n'imaginait certainement pas ainsi. Et Pékin, vu des hauteurs d'un lieu très sacré, où il semblait que jamais Européen n'aurait pu venir. Le sol rocheux qui vous porte va toujours diminuant, se rétrécissant à mesure que l'on s'élève vers le grand diable de Chine, à mesure que l'on approche de la pointe de ce cône isolé qui est l'île des Jades. Ce matin, aux étages supérieurs, je croise en montant une petite troupe de pèlerins singuliers qui redescendent, des missionnaires lazaristes en costume mandarin et portant la longue queue. En leur compagnie, quelques jeunes prêtres catholiques chinois qui semblent effarés d'être là, comme si, malgré leur christianisme superposé aux croyances héréditaires, ils avaient encore le sentiment de quelque sacrilège commis par leur seule présence en un lieu si longtemps défendu. Tout au pied du donjon qui couronne ces rochers, voici le kiosque de faïence et de marbre où le grand diable habite. On est là très haut, dans l'air vif et pur, sur une étroite terrasse, au-dessus d'un déploiement d'arbres à peine voilé aujourd'hui par l'habituel brouillard de poussière et de soleil. et j'entre chez le grand diable, qui est le seul hôte de cette région aérienne. Oh, l'horrible personnage! Il est de taille un peu surhumaine, coulé en bronze. Comme Shiva, dieu de la mort, il danse sur des cadavres. Il a 5 ou 6 visages atroces, dont le ricanement multiple est presque intolérable. Il porte un collier de crâne et il gesticule avec une 40aine de bras qui tiennent des instruments de torture ou des têtes coupées. Telle est la divinité protectrice que les Chinois font planer sur leur ville, plus haut que toutes leurs pyramidales toitures de faïence, plus haut que leurs tours et leurs pagodes, ainsi qu'on aurait chez nous, aux âges de la foi, placé un Christ ou une Vierge blanche. Et c'est comme le symbole tangible de leur cruauté profonde. C'est comme l'indice de l'inexplicable fissure dans la cervelle de ces gens-là, d'ordinaire si maniable et si doux, si accessible au charme des petits-enfants et des fleurs, mais qui peuvent tout à coup devenir torsionnaires avec joie, avec délire, arracheurs d'ongles et dépeceurs d'entrailles vives. Les choses qui me soutiennent en l'air, rochers et terrasses de marbre, dévalent au-dessous de moi, parmi les cimes des vieux cèdres, en des fuites glissantes à donner le vertige. La lumière est admirable et le silence absolu. Pékin sous mes pieds, semblable à un bois. On m'avait averti de cet effet incompréhensible, mais mon attente est encore dépassée. En dehors des parcs de la ville impériale, il ne me paraissait point qu'il y eût tant d'arbres dans les cours des maisons, dans les jardins, dans les rues. Tout est comme submergé par la verdure. Et même au-delà des remparts qui dessinent dans le lointain extrême leur cadre noir, le bois recommence, semble infini. Vers l'ouest seulement, c'est le steppe gris par où j'étais arrivé un matin de neige. Et vers le nord, les montagnes de Mongolie se lèvent charmantes, diaphanes et irisées sur le ciel pâle. Les grandes artères droites de cette ville, tracées d'après un plan unique, avec une régularité et une ampleur qu'on ne retrouve dans aucune de nos capitales d'Europe, ressemblent d'où je suis à des avenues dans une forêt. Des avenues que borderaient des maisonnettes drôles, compliquées, fragiles, en carton gris ou en fines découpures de papier doré. Beaucoup de ces artères sont mortes. Dans celles qui restent vivantes, la vie s'indique, regardée de si haut, par un processionnement de petites bêtes brunes aplaties sur le sol, quelque chose qui rappelle la migration des fourmis. Ces caravanes toujours qui s'en vont, lentes et tranquilles, se disperser aux 4 coins de la Chine immense. La région directement sous mes pieds est la plus dépeuplée de tout Pékin et la plus muette. Le silence seul monte vers l'affreuse idole et vers moi, qui de compagnie nous grisons de lumière, d'air vif et un peu glacé. À peine quelques croassements, perdus, diffusés dans trop d'espace, quand vient à tourbillonner au-dessous de nous un vol d'oiseaux noirs. Un semblant de regret se mêle aujourd'hui à mon après-midi de travail dans l'isolement de mon haut palais. Regret de ce qui va finir, car je suis maintenant tout près de mon départ. Ce sera du reste une fin sans recommencement possible, car si je revenais plus tard à Pékin, ce palais me serait fermé, ou tout au moins n'y retrouverais-je jamais ma solitude charmante. Et ce lieu si lointain, si inaccessible, dont il eût semblé insensé autrefois de dire que je ferais ma demeure, mais devenu déjà tellement familier, ainsi que tout ce qui s'y trouve et ce qui s'y passe. La présence de la grande déesse d'albâtre dans le temple obscur, la visite quotidienne du chat, le silence des entours, l'éclat morne du soleil d'octobre, l'agonie des derniers papillons contre mes vitres, le manège de quelques moineaux qui nichent au toit d'émail, et la promenade des feuilles mortes, la chute des petites aiguilles balsamiques des cèdres sur les dalles de l'esplanade, sitôt que souffle le vent. Quelle singulière destinée, quand on y songe, m'a fait le maître ici pour quelques jours. Au palais du Nord, c'est déjà bien fini des splendeurs de notre longue galerie. La voici traversée de place en place par des boiseries légères qui pourraient être enlevées sans peine si jamais l'impératrice pensait à revenir, mais qui pour le moment la partagent en bureaux et en chambres. Encore quelques bibelots magnifiques dans la partie qui sera le salon du général. Ailleurs, tout a été simplifié, et les soieries, les potiches, les écrans, les bronzes, dûment catalogués aujourd'hui, sont allés aux garde-meubles. Nos soldats ont même apporté dans ces futurs logements de l'état-major, pour les rendre habitables, des sièges européens trouvés par là dans les réserves du palais. Canapés et fauteuils vaguement Henri II, couverts en peluche vieil or d'un beau faste d'hôtel garni provincial. Je pars sans doute demain matin, et quand l'heure du dîner nous réunit une fois encore, le capitaine C et moi, à notre toujours même table d'ébène, nous avons l'un et l'autre un peu de mélancolie à voir combien les choses sont changées autour de nous et combien vite s'est achevé notre petit rêve de souverain chinois. Lundi 29 octobre. J'ai retardé mon départ de 24 heures afin de rencontrer le général Voiron qui rentre à Pékin ce soir et de prendre ses commissions pour l'amiral. C'est donc un dernier après-midi tout à fait imprévu à passer dans mon haut mirador et une dernière visite du chat qui ne me retrouvera plus, ni demain, ni jamais, à ma place habituelle. D'ailleurs, la température s'abaisse de jour en jour et mon poste de travail bientôt ne serait plus tenable. Avant que la porte de ce palais se referme derrière moi pour l'éternité, je me promène en tournée d'adieu dans tous les recoins étranges des terrasses, dans tous les kiosques maniérés et charmants, où l'impératrice, sans doute, cachait ses rêveries et ses amours. Quand je vais prendre congé de la grande déesse blanche, le soleil déjà déclinant et les toits de la ville violette déjà baignés dans l'or rouge des soirs, je trouve les aspects changés autour d'elle. Les soldats qui gardent en bas la poterne sont montés pour mettre de l'ordre dans sa demeure. Ils ont enlevé les 1000 cassons de porcelaine, de girandoles, les 1000 débris de vases ou de bouquets et balayé avec soin la place. La déesse d'albâtre, délicieusement pâle dans sa robe d'or, sourit plus solitaire que jamais au fond de son temple vide. Il se couche, le soleil de ce dernier jour, dans de petits nuages d'hiver et de gelée qui donnent froid rien qu'à regarder. Et le vent de Mongolie me fait trembler sous mon manteau, tandis que je repasse le pont de marbre pour rentrer au palais du Nord, où le général vient d'arriver avec une escorte de cavaliers. Mardi 30 octobre. À cheval à 7 heures du matin, sous l'inaltérable beau soleil et sous le vent glacé. Et je m'en vais, avec mes deux serviteurs, plus le jeune chinois Toum et une petite escorte de 2 chasseurs d'Afrique qui m'accompagnera jusqu'à ma jonque. Environ 6 kilomètres à faire avant d'être dans la funèbre campagne. Nous devons naturellement d'abord passer le pont de marbre, sortir du grand bois impérial. Ensuite, traverser dans le nuage de poussière noire tout ce Pékin de ruines, de décombres et de pouilleries qui est en plein grouillement matinal. Et enfin, après les portes profondes, percées dans les hauts remparts, voici le steppe gris du dehors, balayé par un vent terrible. Voici les énormes chameaux de Mongolie à crinière de lion qui perpétuellement y défilent en cortège et font nos chevaux se cabrer de peur. L'après-midi, nous sommes à Tongcheou, la ville de ruines et de cadavres qu'il faut franchir dans le silence pour arriver au bord du Peiho. Et là, je retrouve ma jonque amarrée, sous la garde d'un cavalier du train, ma même jonque qui m'avait amenée de Tientsin, mon même équipage de Chinois et tout mon petit matériel de lacustre demeuré intact. On n'a pillé en mon absence que ma provision d'eau pure, ce qui est très grave pour nous, mais si pardonnable en ce moment où l'eau du fleuve est un objet d'effroi pour nos pauvres soldats. Tant pis, nous boirons du thé bouillant. À la course, allons chez le chef d'État régler nos papiers. Allons toucher nos ratios de campagne aux magasins de vivres installés dans les ruines. Et vite, démarrons la jonque de la rive infecte qui sent la peste et la mort. Commençons de redescendre le fleuve au fil du courant vers la mer. Bien qu'il fasse sensiblement plus froid encore qu'à l'aller, c'est presque amusant de reprendre la vie nomade, de réhabiter le petit sarcophage au toit de natte, de s'enfoncer à la nuit tombante dans l'immense solitude d'herbage en glissant entre les deux rives noires. Mercredi 31 octobre. Le soleil matinal resplendit sur le pont de la jonque couvert d'une couche de glace. Le thermomètre marque 8 degrés au-dessous de zéro et le vent de Mongolie souffle avec violence, âpre, cruel, mais puissamment salubre. Nous avons pour nous le courant rapide et beaucoup plus vite qu'au départ défilent sous nos yeux les rives désolées avec leurs mêmes ruines, leurs mêmes cadavres aux mêmes places. Du matin au soir, pour nous réchauffer, nous marchons sur le chemin de halage, courant presque à côté de nos Chinois à la cordelle. Et c'est une plénitude de vie physique. Dans ce vent-là, on se sent infatigables et légers. Jeudi 1er novembre. Notre trajet par le fleuve n'aura duré cette fois que 48 heures, et nous n'aurons dormi que deux nuits de gelée sous le toit de nattes minces qui laisse voir par ses mailles le scintillement des étoiles, car vers la fin du jour, nous entrons à Tientsin. Ce Tientsin, où il nous faudra chercher un gîte pour la nuit, s'est repeuplé terriblement depuis notre dernier passage. Nous mettons près de 2 heures pour traverser à l'aviron l'immense ville, au milieu d'une myriade de canaux et de jonques, les deux rives du fleuve encombrées de foules chinoises qui hurlent, qui s'agitent, achètent ou vendent, malgré l'éboulement des murailles et des toitures. Vendredi 2 novembre. Sous le vent de gel et de poussière qui continue de souffler sans pitié, nous arrivons pour midi dans l'horrible Taku, à l'embouchure du fleuve. Mais hélas, impossible de rejoindre l'escadre aujourd'hui. Les marées sont défavorables, la barre mauvaise, la mer démontée. Peut-être demain et encore. J'avais presque eu le temps de l'oublier, moi, la vie incertaine et pénible que l'on mène ici. Perpétuelle inquiétude du temps qu'il va faire, préoccupation pour tel chaland, chargé de soldats ou de matériel, qui risque d'être surpris dehors ou de s'échouer sur la barre. Complications et dangers de toutes sortes pour ce va-et-vient entre la terre et les navires, pour ce débarquement du corps expéditionnaire, qui semble peut-être une chose si simple lorsqu'on y regarde de loin, et qui est un monde de difficultés dans de tels parages. Samedi 3 novembre. En route dès le matin pour l'escadre, par grosse mer. Au bout d'une demi-heure, la sinistre rive de Chine s'est évanouie derrière nous et les fumées des cuirassés commencent d'étendre sur l'horizon leurs nuages noirs. Mais nous craignons d'être forcés de rebrousser chemin tant il fait mauvais. Tout trempé d'embrun, je finis cependant par arriver et entre deux lames, je saute à bord du redoutable où mes camarades, qui n'ont pas eu comme moi un intermède de haute chinoiserie, sont à la peine depuis déjà 40 jours.